Le Décryph Éco avec Celsi.fr, la solution internet et mobile pour piloter l'activité et développer la croissance de votre entreprise. Celsi. S-E-2-L-S-Y.
Le débrief éco du dimanche soir en partenariat avec le Cercle des économistes. 20 minutes de débat sur les grands thèmes sociaux et économiques qui vont alimenter la campagne électorale. Bonsoir Emmanuel Cuny.
Bonsoir Catherine, bonsoir à tous.
Alors le premier débat de ce soir, ce sera sur la mondialisation de l'économie dans la campagne avec le traité TAFTA notamment. C'est l'accord de libre-échange qui est en négociation actuellement entre les États-Unis et l'Europe. Il donne quoi exactement ce traité TAFTA?
Disons déjà que le sujet est ressorti vendredi à Bratislava lors d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères. L'Autriche et la France ont demandé une suspension des négociations par l'Union européenne, qui est mandatée en fait pour discuter avec les États-Unis au nom de tous les États membres de l'Europe. Mais cette demande a été rejetée. Les négociations sont très critiquées, bien sûr. Elles visent à créer un marché potentiel de 850 millions de consommateurs, dit-on, qui en ferait le plus grand accord commercial au monde. Un traité très très mal engagé qui ne sera probablement pas signé avant le départ de Barack Obama de la Maison-Blanche.
Alors pour en débattre ce soir, à mes côtés, Agnès Benassi-Kéré, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vous êtes membre du Cercle des économistes. Face à vous, Dominique Pilon, bonsoir.
Bonsoir.
Porte-parole du mouvement altermondialiste ATTAC, vous êtes professeur également à l'université Paris 13. Et pour lancer le débat, eh bien on va écouter François Hollande.
Nous avons posé des principes dans le cadre des négociations commerciales internationales. Je pense aux normes sanitaires, alimentaires, sociales, culturelles, environnementales. Jamais nous n'accepterons la mise en cause des principes essentiels. Le libéralisme est d'ailleurs une idée du XIXe siècle dont les ressorts, le profit maximal, l'exploitation des ressources naturelles, la concurrence comme loi de la ville, ne permet pas à la planète d'être durable ni même viable. Et je pense que cette idée a trouvé ses limites.
Accepter cet accord, c'est un danger pour l'économie européenne et pour l'économie de la France. Qui veut commencer?
Dominique Pilon.
Oui, je pense que ce traité pose de graves problèmes. Parce que d'abord, il a été négocié souvent dans la plus grande opacité. Heureusement qu'il y a eu un grand nombre d'acteurs dans la société civile, d'ailleurs, qui se sont battus pour qu'on ait un peu plus d'informations. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, puisque ce traité est un traité de libre-échange, l'idée, c'est de supprimer au maximum les obstacles à la libre circulation des marchandises, des services et des capitaux. Et en réalité, ça veut dire qu'on va s'attaquer non seulement aux tarifs douaniers, ça a été déjà très largement fait, mais on s'attaque de plus en plus maintenant aux normes et aux normes, comme ça a été dit tout à l'heure par le président de la République, sociales, environnementales, sanitaires. Et comme il s'agit d'abaisser au maximum les obstacles, eh bien, cette harmonisation se fait très largement vers le bas. Donc là, il y a un vrai problème par rapport à la qualité de vie, par rapport au bien-être des populations. Et d'ailleurs, je rajouterais que dans l'Europe, comme aux États-Unis, la majorité de la population est contre ces traités. Je citerai non seulement la France, mais en Allemagne, le week-end dernier, il y a eu 300 000 manifestants dans les 7 villes allemandes pour manifester contre ces traités. C'est-à-dire, ce traité aujourd'hui est rejeté massivement par les populations. Donc, il faut arrêter ces négociations.
Et l'Autriche s'est mise à côté de la France, d'ailleurs, pour demander la suspension de ces négociations. Agnès Benassi-Kéré, est-ce que cette position de la France est raisonnable?
Alors bon, on ne sait pas très bien où en sont les négociations aujourd'hui, mais je pense qu'il y a
l'impression qu'elles sont au point mort des deux côtés.
Hein. Il y a un enjeu qui est quand même extrêmement important, qui est la normalisation au niveau international. Et l'idée, c'était de faire bloc avec les États-Unis pour, au contraire, aller un peu vers le haut en termes de normes environnementales et de sécurité, notamment sécurité alimentaire, par rapport à la norme qui va nous tomber dessus si on ne fait rien, qui est la norme asiatique.
Il vaut mieux être proactif, en fait.
Il faut quand même rappeler qu'en Asie, en Chine, les gens ne veulent plus boire de lait parce qu'ils n'ont pas confiance. Hein. Donc on est quand même sur des normes qui ne sont pas les mêmes que chez nous. Alors on agite toujours, par exemple, le poulet au chlore.
C'est un vrai risque.
Le poulet au chlore est une question plus culturelle que sanitaire. Vous ne prenez pas de risque en mangeant du poulet au chlore. Et d'ailleurs, vous mangez peut-être de la salade au chlore, puisque toutes les salades en sachet sont rincées au chlore. Oui. Et les Français en mangent avec grand appétit. Donc, on voit bien que c'est un sujet plus culturel. Maintenant, si ces sujets-là doivent être écartés, c'est des sujets microscopiques par rapport à l'ensemble. Et s'ils doivent être écartés, ils seront écartés. Donc, je pense que c'est un peu dommage de faire capoter une négociation juste pour des sujets un peu
symboliques. Je vous vois hocher la tête.
C'est absolument pas microscopique, c'est au contraire absolument absolument, c'est énorme. C'est-à-dire l'ensemble des normes dont il est question, c'est pas uniquement le poulet au chlore, ça c'est ce qu'on met en avant comme ça pour illustrer. Je pense que les normes, on ne peut pas parler par exemple des normes financières. On vient d'avoir une crise financière qui est loin d'être terminée. Il faut savoir que la coopération réglementaire qui va être organisée dans le cadre de ce traité, s'il est ratifié, aura aussi des effets considérables sur les normes et probablement sur la normalisation vers le bas de ces normes.
Mais si on prend par exemple les normes dans l'automobile, la sécurité automobile, on a en France une flopée de PME, une myriade de PME qui sont vraiment hyper spécialisées là-dedans. On a tout intérêt à nous-mêmes être proactifs, comme le disait Agnès Benassi, pour avoir nos propres normes et pouvoir vendre dans le monde entier après.
Finalement, bah écoutez, interrogez les PME industrie. Et vous verrez que si vous faites un sondage auprès des PME, qu'elles sont très majoritairement réticentes par rapport à ce traité. Donc ce que vous dites là, c'est peut-être vrai, mais n'empêche que les acteurs de terrain, sont extrêmement méfiants. Alors, est-ce qu'ils ont tort? Je ne crois pas que la majorité de la population et des acteurs comme les PME, qui sont extrêmement réticents, ont tort. C'est un peu, disons, arrogant de penser que ces gens-là ont tort contre la minorité que nous sommes, journalistes ou économistes.
Agnès Benassi, est-ce qu'il peut y avoir un réel impact sur la croissance?
Alors, les PME françaises, effectivement, exportent extrêmement peu, donc elles ne sont pas tellement concernées par le sujet, si ce n'est par la concurrence des importations. Maintenant, il y a un énorme enjeu pour des entreprises plus grandes, effectivement, françaises, qui sont des entreprises présentes sur les marchés publics. On a quand même de très belles entreprises qui peuvent candidater sur des marchés publics, et un des enjeux de ce traité, c'est l'ouverture des marchés publics américains. Alors, c'est loin d'être gagné, je le reconnais, parce que c'est pas parce que le gouvernement fédéral dit oui qu'il y aura ouverture des marchés publics, puisque c'est une prérogative des États, en fait. Et donc, là, il y a un petit sujet institutionnel, mais c'est ça qui est sur la table. Et donc là, les entreprises françaises peuvent beaucoup gagner si elles peuvent candidater sur des marchés américains.
Je pense qu'Agnès Benassi a totalement raison en disant que les grandes entreprises sont tout à fait favorables. En effet, les grands bénéficiaires d'un traité comme celui-là, s'il était négocié et ratifié, seraient les très grandes entreprises. Mais elles ne représentent qu'une partie de l'activité et de l'emploi. Donc je pense que là, il y a un vrai problème. Quant aux effets économiques, et là, on ne sera pas d'accord,
alors,
je pense, avec Agnès.
Croissance ou pas croissance?
Non, pas croissance. C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui sont utilisés aujourd'hui qui sont totalement inadaptés. Des modèles d'équilibre général, notamment utilisés par la Commission, qui sont des modèles statiques, des modèles qui résonnent sans coût d'ajustement, etc., qui amènent des effets positifs sur la croissance et les revenus. Il y a une étude qui est sortie la semaine dernière par des économistes américains en utilisant un modèle macroéconomique multinational des Nations Unies qui montre exactement le contraire. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais ça veut dire qu'il y a une grande pluralité de résultats et que donc on ne peut pas affirmer, comme certains l'affirment, que les gains seront assurés en cas de ratification de ce traité.
Bon, ça mérite d'être clair.
On va marquer une pause, hein, si vous voulez bien. On va se retrouver dans quelques minutes pour débattre d'un autre sujet ô combien important, puisqu'il s'agit du budget de la France 2017. La suite du débrief éco du dimanche soir avec Emmanuel Cuny, Agnès Benassi-Quéré du Cercle des économistes, Dominique Pilon, porte-parole du mouvement altermondialiste Attaque, avec un deuxième débat consacré donc au budget 2017 de la France qui sera présenté mercredi en Conseil des ministres. Ce projet de loi de finances pour 2017 sera le dernier budget du quinquennat de François Hollande. Un budget réaliste, même avec la baisse des impôts, dit Michel Sapin.
C'est un geste de diminution de l'impôt sur le revenu qui vient après trois autres diminutions successives, 2014, 2015, 2016. Il ne vous a pas échappé que lorsque nous sommes arrivés, le budget de la France était en déficit de plus de 5%, que la dette avait explosé au cours des années précédentes et que nous sommes, parce que nous sommes au pouvoir, des gens sérieux qui géreront aussi la France avec sérieux.
Voilà ce qu'en dit Michel Sapin. Emmanuel Cuny, quelles sont les grandes lignes de ce budget?
Alors,
2017?
Essayons de faire simple et court. Ce budget est construit sur une hypothèse de croissance économique d'1,5% en 2017. Il prévoit de faire baisser le déficit public en dessous des fameux 3% du PIB, donc à 2,7% de la richesse nationale produite. 5 millions de foyers devraient bénéficier d'une baisse d'impôts et les entreprises recevoir 5 milliards d'euros pour améliorer leur marge. Au total, il va falloir trouver quand même 14 milliards pour financer tout ça.
Voilà, franchement, des dépenses supplémentaires, des baisses d'impôts, beaucoup de chiffres, est-ce que tout ça a un sens?
Agnès Benassi.
Alors c'est sûr que les prévisions, comme on dit, les prévisions sont particulièrement délicates, surtout quand elles concernent l'avenir. Donc on peut peut-être regarder un peu le passé, qui est plus sûr. Et moi je pense qu'il y a un chiffre qu'on ne commande pas beaucoup, c'est l'évolution des dépenses publiques en France, où on est vraiment augmenté beaucoup. Depuis 2008, les dépenses courantes, hors intérêt de la dette, ont augmenté de 5 points de PIB. les dépenses d'investissement ont diminué. Bon, les dépenses d'intérêt de la dette ont diminué puisque le taux d'intérêt a baissé. Donc ça, c'est quand même assez ennuyeux parce que...
On rembourse notre dette moins chère.
Ce n'est pas comme ça qu'on va, qu'on prépare l'avenir. Dans une période de taux d'intérêt très bas, on voudrait investir plus. Hein, et peut-être, s'il faut comprimer les dépenses, et bien couper un peu dans les dépenses plutôt courantes qui ne préparent pas l'avenir. Donc, c'est sûr que si on veut baisser le déficit, baisser les impôts, il va falloir baisser beaucoup les dépenses. Hein. Donc là, il y a quand même une équation qui, malheureusement, est imparable.
Oui. Dominique Plion, est-ce qu'il faut baisser les déficits ?
Il faut maîtriser les finances publiques, à n'en pas douter.
Là, au moins, vous êtes d'accord.
Mais la question, c'est comment on fait et quels sont les remèdes ? Et est-ce que les remèdes du passé, puisque Agnès a eu raison de se tourner vers le passé, je pense que les remèdes qui ont été employés dans le passé ont échoué. Il y a eu le pacte de stabilité de croissance, échec, puisqu'on a dû, après, remettre ça sur la discussion. Maintenant, on a un pacte budgétaire. Pour le moment, échec. C'est-à-dire que ce n'est pas la bonne méthode. Ce n'est pas la bonne méthode parce que c'est des politiques que prône d'ailleurs Agnès à l'instant, de rigueur budgétaire, qui ont un impact négatif sur la croissance. Et là, je citerai un travail du Fonds monétaire international. Olivier Blanchard, qui était à l'époque économiste en chef, avait dit « on s'est trompé, on a sous-estimé les effets négatifs des multiplicateurs budgétaires ». Et il y a un cercle vicieux qui se met en place, c'est-à-dire qu'on restreint les dépenses, on ralentit la croissance. Et la zone euro, est-ce que c'est un hasard, est une des zones du monde les plus déprimées. Et je voudrais citer ce que disait ces jours-ci, il était en France, Joseph Stiglitz, quand il dit que l'euro court à sa perte.
Prix Nobel d'économie.
Et prix Nobel d'économie, qui publie un livre donc sur la crise de l'euro. Il dit ça, justement. Il dit que les instruments budgétaires, et donc le pacte budgétaire, qui prône en partie la rigueur budgétaire, sont responsables en ce moment de la crise de l'euro. Et il a totalement raison.
Agnès Benassi, est-ce qu'il faut casser le pacte budgétaire ?
Alors,
Je
pense que non. Je pense qu'il faut le transformer. Et je pense que, pour que la France soit un peu convaincante vis-à-vis de ses partenaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, elle a plutôt intérêt à... remplir ce fameux objectif de inférieur à 3%, déficit inférieur à 3%. Maintenant, je suis d'accord sur le fait qu'en 2012-2013, les Européens, collectivement, ont fait une erreur de politique budgétaire. On fait beaucoup trop de restrictions. Mais en fait, ça vient surtout d'Allemagne. Enfin, c'est surtout en Allemagne qu'on a serré la bride, alors qu'il y avait des marges de manœuvre. Maintenant, la croissance revient. C'est vrai qu'elle est molle, mais ce n'est pas le moment, théoriquement, ce n'est pas le moment où il faut relâcher.
Elle revient timidement, cette croissance.
Bah, c'est 1,6, c'est 1,5%. Mais on ne peut pas tellement espérer mieux, malheureusement.
Donc ça veut dire
France.
Le chômage toujours au même
la
niveau.
La France est un pays déficitaire, il faut le rappeler. La France a un déficit extérieur. Et c'est là que je suis en désaccord avec Dominique Plion. C'est que la France est en déficit. C'est-à-dire qu'en fait, elle a trop de demandes par rapport à l'offre. Hein, et donc, il y a d'autres pays qui sont en excédent. Et c'est plutôt là qu'on aimerait bien voir des politiques de relance.
Alors, les candidats de droite à la présidentielle disent pratiquement tous basta aux 3%. Il faut abandonner ce fameux critère de Maastricht. Est-ce qu'il faut laisser filer les déficits ?
Alors, non. Moi, je suis pas d'accord avec cette interprétation. Les candidats de droite disent ça, mais en même temps, ils disent des choses pour atteindre l'objectif que appelle de ses voeux Agnès Benassi. Il y en a un, je ne citerai pas son nom, qui dit qu'il faut supprimer 1 million d'emplois dans la fonction publique. Alors, je vois bien qu'il m'explique si c'est
là,
des enseignants,
dans le collimateur, celui-là.
Des infirmières, si c'est des policiers, ils ne le disent pas. Donc, il y a un peu de démagogie. Mais aussi, je voudrais répondre. Il faut regarder du côté des dépenses, mais regarder du côté des recettes. Car un vrai problème par rapport aux recettes, d'ailleurs pas qu'en France, dans la plupart des pays, c'est l'érosion fiscale et l'évasion fiscale. On a, bon an, mal an, 80 milliards de pertes de recettes. Si elles étaient récupérées, il n'y aurait aucun problème de déficit. Donc, je veux dire que se tourner que vers les dépenses, c'est regarder d'une manière asymétrique, d'une manière
et
totalement incomplète.
Et elles sont où ces recettes fiscales que l'on ne voit pas, qui
mais
pourraient nous faire du bien
dans
les caisses ?
Des entreprises qui ne payent pas les impôts qu'elles doivent payer. On peut parler d'Amazon, mais on peut parler aussi de Total, qui certaines années récentes ne payait 0 € d'impôts, tout simplement, alors qu'il a une grande partie de son activité, pas que en France, mais en France notamment. Donc là, si on se tournait vers la lutte, mais décisive, parce qu'aujourd'hui, on a récupéré 2 milliards. Bercy se vante d'avoir récupéré 2 milliards sur les 80 milliards d'évasion fiscale, mais c'est ridicule. Donc, il faut s'attaquer aussi à la question des recettes, de la fiscalité, de l'évasion fiscale, sujet d'actualité. Mais malheureusement, les gouvernements n'ont pas le courage de le faire.
Agnès Benassi.
Les gouvernements commencent à le faire. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de changer. Il y a un vrai tournant là, qui est pris au niveau de l'Union européenne. C'est un bon tournant. Effectivement, c'est très important. Il y a aussi la fraude à la TVA qui ne concerne pas que les grandes entreprises, qui en concerne aussi beaucoup de petites entreprises. Mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème des finances publiques. C'est-à-dire que c'est très important,
pourquoi,
certes, mais ce n'est pas ça qui va résoudre le premier défi. Parce qu'on n'est pas sur des masses qui sont
80 milliards par an ?
Mais
80 milliards par an ?
Mais
le manque à gagner,
pour
le manque à gagner
est considérable. On ne va pas faire passer la fraude à 0%.
Mais non, mais même si on diminue par deux,
il faut viser.
Voilà.
Attendez, au moins.
Et donc,
Un objectif ambitieux.
Si c'est 40 milliards, déjà, on réduit une grande partie du déficit.
Très rapidement, la vraie stratégie budgétaire, c'est quoi, Agnès Benassi ?
Moi, je pense que
Je suis désolée.
La vraie stratégie budgétaire, c'est effectivement d'essayer d'arriver en dessous de 3%, surtout pour récupérer une voix crédible au sein des pays européens et enfin pouvoir ouvrir le vrai sujet qui est d'une transformation du pacte de stabilité dans quelque chose de plus favorable à l'investissement.
Merci à vous deux, Dominique Plion, porte-parole du mouvement altermondialiste ATTAC, Agnès Benassicar et du Cercle des économistes. Emmanuel Cugny.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Bonne semaine à vous, à dimanche.